On fait un point sur le relais de la flamme olympique. On continue bien sûr de suivre la politique avec les élections législatives qui se préparent. Et puis on s'intéresse aux difficultés des communes qui font suite à la réforme des rythmes scolaires. Le journal de midi, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Yorana Damien, bonjour à toutes et à tous.
Le relais de la flamme olympique anime Tahiti.
Avec les surfeurs à l'honneur tôt ce matin du côté de Tehupo, Vahine Fierro et Kaoli Vast, athlètes qualifiés pour les Jeux Olympiques, et Ira Terinatofa, l'entraîneur de l'équipe de France, étaient les premiers à la porter. 124 relayeurs sont désormais en train de tourner tout autour de l'île en alternance, à l'est comme à l'ouest. Alors pour ce qui reste à venir, la flamme va partir à 12h30 du musée de Tahiti et des îles pour rejoindre Tahiti. À Puna. Elle va aussi se trouver à la pointe Vénus, puis de 15h30 à 16h entre le tombeau du roi et le stade d'Arue. Enfin, à partir de 16h30, le plus long tronçon va commencer puisque la flamme partira de Aorei Tiniho pour rejoindre la place Toata. Elle passera par l'avenue Prince Inoy, le front de mer et le stade Bambridge. L'allumage du chaudron, on le rappelle, est prévu à 18h30. Attention, tous ces tronçons sont fermés à la circulation 30 minutes avant le départ de la flamme. Ils sont rouverts une fois le dernier véhicule du convoi passé. Le programme du relais, bien sûr, à retrouver sur Radio 1.
On continue avec la politique et les élections législatives du 29 juin.
Et oui, les tractations se poursuivent depuis chaque bord politique, mais beaucoup d'inconnus subsistent encore. Chez les autonomistes, Ahere Iaporinetia a décidé mardi soir de jouer le jeu de l'union proposé par Edouard Fritsch. Il ne présentera donc qu'une seule candidate, Nicole Sanquer, sur la deuxième circonscription. Moerani Frebo du Tapura devrait être sur la première et en théorie, le Amuitaira irait sur la troisième, celle de Punaouiafa, mais ce n'est pas le premier choix de Gaston Floss. Bruno Sandras disait hier qu'il n'était donc pas sûr qu'il accepte. Edouard Fritsch, qui réunissait le Tapura dans la soirée pour un conseil politique, s'est ensuite expliqué.
Raisonnablement, je pense effectivement que le conseil politique de Ahip a opté pour ma solution. Ce qu'a accepté déjà Gaston Floss, président du Amuitaira, n'était pas opposé du tout. Là où nous avons commencé à avoir quelques difficultés, c'est que lorsqu'il a fallu proposer les circonscriptions aux différents partenaires, M. Floss effectivement m'a demandé à ce que la première circonscription soit attribuée.
Une demande à laquelle Edouard Fritsch a fait une réponse très réservée, dit-il. Le vieux lion souhaitait effectivement que son candidat soit sur la première circonscription, déjà prise donc par le Tapura, qui souhaite y présenter, on l'a dit, Moerani Frebo. Gaston Floss et Edouard Fritsch se sont rencontrés à ce sujet hier après-midi, rapidement, à moins d'une heure, et le président du Amuitaira n'a pas souhaité s'exprimer à la sortie, mais il n'a toujours pas donné son accord formel sur ce partage des circonscriptions.
Et puis donc, on s'est revu aujourd'hui, et donc j'ai confirmé à M. Floss que pour le Amuitaira, ce serait la troisième circonscription. Et là, ça a coincé, donc M. Floss m'a dit « je ne suis pas d'accord ». J'ai dit « ok, si tu n'es pas d'accord, eh ben, je descends au conseil politique et je vais discuter avec mes gars pour réorganiser, parce qu'il me faut préparer un plan B ».
Voilà, le président du Tapura devrait avoir le choix puisque pas moins de 16 personnes avaient proposé leur candidature. Mais ce serait un échec pour l'ancien président du pays de partir sur ces élections sans le parti de Gaston Floss.
Si M. Floss persiste dans son désaccord, bien sûr qu'il faudra trouver un candidat. Mais je n'aurais pas atteint mes objectifs. L'objectif, c'était malgré tout de réunir toutes les forces autonomistes pour faire front aux indépendantistes.
Et si un accord est trouvé, Pascal Haïti Floss devrait être la candidate du Amuitaira, mais malgré le risque d'inéligibilité qui pèse toujours sur elle, si elle est bien sûr sur la troisième circonscription, le nom de Naomi Miura, la fille de Lanate Tuanui, est évoqué pour la position de suppléante.
Et toujours pas d'annonce officielle encore chez les Bleus.
Oui, Moete Brothersen a déclaré qu'il pensait que les trois députés étaient les mieux placés pour repartir à Paris, ce qui n'est pas l'avis de tous au Tavigny. Oscar Temaru pourrait être tenté d'appeler au boycott, comme à chaque scrutin national, ou de le présenter comme un référendum ou encore se présenter lui-même, quitte à laisser la place à un ou une suppléante par la suite. Le Tavigny était en réunion hier après-midi, mais rien n'a filtré.
Et du côté de Heiura et les Verts, on prend les mêmes et on recommence.
Oui, le parti a donné les noms de ses candidats pour ces législatives. Ce sera les mêmes donc qu'en 2022. Jackie Briand sur la première, Jules Hawata sur la deuxième et Tati Salmon sur la troisième. L'urgence climatique reste leur priorité. C'est une réalité économique, sociale et humaine pour Jackie Briand. Alors s'ils sont élus, ils souhaitent proposer une réorientation des subventions de l'État sur la formation et la recherche, et ce pour accélérer la transition énergétique. Écoutez Jackie Briand.
Le discours passionnel et passionné qui est porté par les autonomistes ou les indépendantistes, on a l'impression que notre vie est suspendue à nos institutions. Mais c'est un délire. C'est un délire. Les institutions ne sont qu'un moyen, qu'un outil pour pouvoir nous permettre d'engager des orientations. Si nous ne sommes pas à prendre en considération que les changements climatiques vont avoir une incidence mais de notre vie de tous les jours. On n'a pas besoin d'attendre la génération de demain.
Et au sujet de l'actualité nationale, la montée de l'extrême droite et son éventuelle arrivée au pouvoir inquiète beaucoup de monde, dont Jacky Briand. Il s'alarme pour les financements de l'écologie qui n'a jamais été une priorité pour le Rassemblement national.
L'extrême droite aujourd'hui n'a qu'une certitude, c'est de croire qu'en limitant l'entrée de l'immigration à l'intérieur de la France, mais c'est une approche qui est interminable. On ne peut pas mettre de l'argent en quantité uniquement pour essayer de faire croire que tous les problèmes dont nous vivons aujourd'hui sont liés au fait qu'à l'intérieur d'un État, il y a la présence d'immigrés. Donc ce discours-là, il est uniquement un discours xénophobe qui n'a aucune application dans la réalité de tous les jours.
Et le président de Heura, Les Verts, conclut en disant que pour le changement climatique ne choisit pas de religion ou de couleur de peau. Pour lui, les élections sont le rendez-vous pour choisir la transition d'un modèle social et économique qui ne peut plus être celui qu'on est en train de subir, dit-il. Au sujet des autres partis, Jacky Briand considère la division entre Moëté et Brotherson et Tony Géros inquiétante et grave. Du côté des autonomistes, dit-il, les tractations sont une question de survie pour certains d'entre eux, qui n'ont pas grand-chose à proposer à part un débat institutionnel. On est contre l'indépendance. Fin de citation.
On fait un point sur le casse-tête des rythmes scolaires.
Oui, la réforme s'apprête à être mise en place au Fénois à la rentrée prochaine. À la fin du mois d'avril, le ministre de l'Éducation, Roni Terripaya, avait rendu public les résultats de la consultation lancée plus tôt auprès des parents d'élèves. C'est désormais au tour des communes de faire leur part dans ce dossier. Alors l'objectif pour les élus des municipalités en charge de l'éducation est de réussir à fixer les futurs horaires des établissements de leur ville en tentant de tenir compte de l'avis des parents. Une tâche compliquée, voire parfois impossible au vu des réalités du terrain. À Paea, par exemple, ce n'est ni le choix des parents, ni celui des enseignants qui a été retenu, mais celui qui respecte le mieux le rythme biologique de l'enfant et qui perturbe moins le bon fonctionnement de la commune. Pour Alain Salmon, adjoint en charge de l'éducation à Paea, la stratégie du ministre pour co-construire ces nouveaux rythmes n'a peut-être pas été prise dans le bon ordre. Écoutez.
Si les choses avaient été bien claires dès le départ, où on disait qu'à Paea, les cours vont démarrer à 8h, donc si vous choisissez la proposition 4, ce sera de 8h à 13h. En pleine connaissance d'informations comme ça, je pense que les parents n'auraient pas voté pour cette proposition. Et ça, ils n'avaient pas cette information. C'est la raison pour laquelle je pense vraiment qu'on aurait dû passer par la commune avant et ensuite consulter les parents et les enseignants.
Et de son côté, le ministre, qui avait été accusé par le syndicat de la promotion des communes d'avoir laissé croire au grand public que les Tavanas se désintéressent du sujet, a réexpliqué que sa démarche a pour objectif de respecter chaque maire et l'ensemble de la communauté éducative. Ce respect, a-t-il dit, s'est traduit par la concertation la plus large possible des différents acteurs. Voilà ce qu'il avait répondu à l'Assemblée. Il avait été interpellé par Edouard Fritsch. Pour le SPC, qui se disait déjà perplexe en février, cette réforme reste celle du pays et il lui appartient d'assumer l'ensemble de ses conséquences. Fin de citation. Quoi qu'il en soit, sur le terrain, on se prépare déjà à devoir l'appliquer depuis plusieurs années.
Je pense qu'il n'y a pas de stratégie bonne ou mauvaise. Moi, je pense que de toute façon, il faut donner la parole à tout le monde et c'est ce qu'il a fait. C'est dans cette dynamique qui s'est inscrit. Moi, je pense qu'on a tout à refaire et à tout recréer et je pense que notre Trihog, il est dans cette dynamique aussi. Et je pense qu'on peut faire que du positif autour du nouveau système que l'on va penser ensemble aujourd'hui pour nos enfants.
Vous avez entendu Maëva Colombani, élue en charge de l'éducation à Papeete. Alors aujourd'hui, à noter qu'une grande partie des communes attend l'approbation des propositions transmises à la DG2E. Elles sont désormais dans l'attente d'un retour. Elles l'espèrent sous quelques jours, mais certaines ne se disent pas rassurées, car il y a encore toute une organisation à prévoir. Un plan d'aménagement logistique qui aurait pu, à entendre certains responsables des mairies, être à ce stade mieux ficelé si on avait d'abord privilégié le travail avec les municipalités.
Une quinzaine de concours dans la fonction publique.
C'est l'annonce faite par le pays. Ils seront organisés cette année et l'année prochaine. Ils concerneront les filières santé, socio-éducative, administrative, financière et technique en catégorie A, B et C. La ministre Vanina Krolas avait estimé le nombre total de postes à pourvoir à 900.
Et on part au Fidji pour terminer, Valdemar.
Oui, pour parler football, puisque les Toa Ito repartent en campagne internationale. 7 mois après les Jeux du Pacifique, achevés sur une 5e place aux îles Salomon, les Tahitiens se sont donc envolés du côté de Suva, où se déroule la phase de groupe de la Coupe des Nations d'Océanie. L'objectif cette année, c'est demi-finale minimum, et la mission débute contre 3 adversaires que les Tahitiens avaient d'ailleurs affrontés pendant les Jeux à Honiara. Il y aura d'abord les Samoa, samedi à 15h, la Papouasie-Nouvelle-Guinée mardi prochain, puis le pays hôte Fidji, vendredi suivant. Écoutez l'analyse du sélectionneur Samuel Garcia au sujet du premier adversaire des Tahitiens.
Moi, dans la continuité de ce qu'ils ont fait aux îles Salomon, ce qui était très bien, hein, on a été en grande difficulté pour les battre. Il y a 17 joueurs qui jouent à l'étranger. Voilà, je pense que c'est une forme d'intelligence. Ils ont voulu renouveler leur équipe et aller chercher tous leurs binationaux, on va dire. Ils sortent de 2 semaines de stage à Auckland. Comme c'est des joueurs qui sont très jeunes, il y aura forcément du dynamisme et ils sont en train de donner un élan à leur équipe qui nous fait dire qu'il faut être très vigilant et puis très concentré parce que ça sera pas chose simple et surtout que c'est le premier match.
Et un succès inaugural permettrait aux Tahitiens de se positionner idéalement alors que seuls les deux premiers du groupe seront qualifiés pour les demi-finales. Des demi-finales qui opposeront donc le premier de ce groupe B, celui des Tahitiens, au deuxième du groupe A et inversement. Et le groupe A justement, lui, se dispute au Vanuatu avec le pays hôte. Vanuatu donc est deux des favoris, la Nouvelle-Zélande et les Salomon, mais sans la Nouvelle-Calédonie qui a déclaré forfait. Et les phases finales, la demi-finale et la finale, donc elles se disputeront elles aussi au Vanuatu, ce qui pourrait engendrer un nouveau voyage pour les Tahitiens s'ils se qualifient.
C'est pas bon pour les équipes qui jouent à Fidji. Mais c'est la force des choses qui a voulu ça. Et puis la priorité, c'est vraiment déjà de se qualifier et d'aller au Vanuatu. Après, on regardera ce qui se passe au Vanuatu.
Voilà, et à noter que le sélectionneur Samuel Garcia est satisfait du groupe qu'il a pu emmener. Malgré quelques absences pour l'éternelle raison des congés, la sélection du Fénois peut compter sur le retour des joueurs de Pirée, sur le renfort de 3 joueurs évoluant à l'étranger ou encore sur l'intégration du Kanak de Vénus, Potin Poma. Le premier match est donc samedi à 15h contre Samoa. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous à 16h pour un prochain point avec l'actualité locale.
Merci beaucoup Valdemar, on enchaîne avec la météo sur Radio.